Bonjour Tiffaine et bon après-midi à vous. La compagnie des auteurs, c'est parti avec aujourd'hui le dernier épisode de notre série consacrée à l'écrivain algérien Kateb Yassine.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous. Kateb Yassine est mort en 1989 à l'âge de 60 ans dans un hôpital de Grenoble. Son corps a ensuite été rapatrié en Algérie où il a été enterré le jour anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, lui qui était considéré comme un paria par les autorités. Dans son cortège funéraire, on comptait de nombreuses femmes, ce qui est contraire à la loi islamique, et une scène burlesque de crevaison est venue rappeler l'impertinence foncière de l'écrivain qui semble continuer à nous jouer des tours, et cela même au-delà de la mort. Cette histoire, c'est son biographe Benamar Médiane qui l'a racontée dans sa biographie. Il était invité de notre émission, c'était lundi dernier. Depuis mardi, nous avons parcouru l'œuvre de Kateb Yassine, sa manière labyrinthique et poétique d'écrire ses personnages qui n'évoluent pas dans une chronologie objective. C'est Charles Bonne qui nous a expliqué tout cela. Enfin, hier, nous nous sommes concentrés sur le théâtre de Yassine, lequel forme une grande part à la fois de son œuvre, mais également de sa vie, puisqu'il a parcouru son pays durant de nombreuses années afin de faire découvrir au plus grand nombre un théâtre populaire qui soit authentiquement algérien. Et aujourd'hui ?
أسطوانات كاراتي تقدم ميشيل شكرا في مغامرات فين مصر مانيتو بوعلام
That's not Moses on the river Nile But another prophet came with a bad new style Smoking cigars, using mobile Mr. Mastercard man is not coming down from the sky
Aujourd'hui, pour évoquer la réception algérienne de Kateb Yassine, nous serons en seconde partie en compagnie du romancier et professeur à Paris 3, Vassini Laredj. Et en première partie, nous sommes avec vous, Kaoutar Archi. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là.
Merci.
Vous êtes sociologue et romancière, autrice de 3 romans, dont le plus récent, À l'origine, Notre Père Obscur, apparu en 2014 aux éditions Actes Sud. Mais vous êtes également l'autrice d'un essai entre littérature et sociologie intitulé « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », édité chez Pauvert en 2016. Un essai dans lequel vous parlez notamment de Kateb Yassine, mais également d'Assia Djebbar, de Rachid Boudjedra, de Kamel Daoud ou encore de Boualem Sansal. Donc entre littérature et sociologie, finalement, vous n'avez pas tout à fait choisi, mais c'est peut-être nécessaire pour étudier Kateb Yassine.
Oui, j'ai décidé de tout prendre, de tout assumer, et puis d'essayer de comprendre effectivement comment le fait littéraire est un fait social, et comment quelque chose qui peut nous paraître a priori libéré des tensions politiques, des rapports de pouvoir, est en fait complètement structuré par ces éléments-là.
Et c'est particulièrement le cas, j'imagine, pour Kateb Yassine. Vous avez choisi de mettre en exergue de votre livre une phrase de Bourdieu qui dit « C'est tout simplement regarder les choses en face et les voir comme elles sont ». Qu'est-ce que vous avez voulu signifier par cette mise en exergue ?
Je pense que c'était une manière pour moi, en tant que romancière, d'essayer de voir la littérature autrement. À travers une perspective illusionnée, romantique, comme ça a pu être le cas à un certain moment. Donc c'était un travail de lucidité et d'élucidation, d'essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, et de voir aussi à quel point la question de la représentation, la question de la production des représentations culturelles, fait l'objet d'enjeux de pouvoir extrêmement forts, même si, a priori, ça ne nous saute pas aux yeux, puisque c'est à chaque fois sublimé par la beauté du texte, la beauté du style, l'idée du génie, l'idée de l'écrivain solitaire, etc. Mais en fait, c'est complètement pris dans les tensions sociales, socio-historiques qui sont celles de la France.
Et Kateb Yassine, quelle était sa conscience, justement, de ce que vous dites là ?
Je crois qu'il avait une conscience assez aiguë de cette tension-là, son positionnement en tant que communiste, son attachement extrêmement fort à la lutte anticoloniale, évidemment la question de l'anti-impérialisme, ont très fortement structuré son œuvre. J'imagine qu'avec Charles Bonne, c'est quelque chose que vous avez dû détailler, mais la question de la révolution politique et la révolution poétique sont chez lui quelque chose d'extrêmement fort.
Les deux vont ensemble pour lui.
Les deux vont ensemble, et les deux vont ensemble aussi parce que la situation algérienne de l'époque permettait une assez faible différenciation des positions. Donc l'écrivain était à la fois celui qui portait une parole publique à l'intérieur de l'Algérie, mais aussi à l'extérieur en France. Donc on voit bien à quel point la structure politique et la situation coloniale participent d'une certaine manière à déterminer les modalités pratiques, les modalités d'écriture de Kateb Yassine, même si sa singularité, bien évidemment, est à souligner.
Alors, le premier grand déterminant, c'est évidemment le choix de la langue.
Ouais.
Et ça s'est beaucoup porté là-dessus. Toute la problématique autour de Kateb Yassine, c'est aussi beaucoup comme ça qu'on l'a analysé. Pourquoi avoir fait le choix du français? Il s'en est d'ailleurs expliqué, puisqu'on lui a posé souvent la question. Il faut peut-être commencer par dire ce que le français signifie. Est-ce que ça représente, au fond, pour les Français eux-mêmes, ce que ça colporte finalement de toute une culture, de toute une histoire? Vous citez par exemple Romain Rolland qui dit « Le nom du vieux Hugo, donc Victor Hugo, était pour nous marié à celui de la République. Sa gloire était la seule qui fut vivante dans le cœur du peuple de France. » Ça signifie que quand on écrit en français, on écrit dans la langue de Victor Hugo et que ça n'est pas totalement anodin.
Oui, l'histoire sociale de la langue française, la manière dont elle s'est construite, on peut remonter même plus loin, on peut penser au texte de Rivarol sur la question de l'universalité de la langue française, est quelque chose d'extrêmement important puisque ça va participer d'une certaine manière à nationaliser l'espace culturel français, à le différencier par rapport aux autres pays européens, tout en ayant cette ambition d'être une langue qui rayonne mondialement. Et par rapport à la question des territoires colonisée, cette langue va particulièrement être investie comme une langue de civilisation, comme une langue qui permet de civiliser ceux qu'on estime ne pas être civilisés. Mais bien évidemment, cette langue de civilisation, en pratique, au regard des politiques qui ont été développées, c'est aussi une langue qui participe très fortement à déculturer les espaces sociaux, traditionnels, culturels, religieux, administratifs, juridiques, etc. Donc il y a une vraie tension entre cette nécessité de diffuser la langue française, parce qu'elle serait la langue du tout, elle serait la langue de l'excellence par excellence, et en même temps, elle est un outil de domination extrêmement puissant.
Est-ce que c'est particulier pour vous aux Français, ou est-ce que c'est plutôt parce que c'est une langue coloniale, et on pourrait dire la même chose finalement, par exemple, de l'anglais?
Je pense qu'il y a quelque chose, par exemple, avec la francophonie, qui est particulièrement spécifique, et il ne me semble pas qu'on retrouve quelque chose de similaire du côté de ce qu'on pourrait appeler l'anglophonie. D'ailleurs, on parle peu d'anglophonie, vous voyez, on parle peu de cette
parce que l'anglais est dominant aussi de manière très naturelle.
Exactement, parce que l'anglais a de facto une sorte d'accès à l'international, une sorte d'internationalisme intrinsèque, alors que la France, et la langue française en particulier, évidemment a dû se battre un peu plus pour essayer de maintenir sa place. Et d'ailleurs aujourd'hui, les différentes institutions francophones parlent de partage des langues, par exemple. C'est-à-dire qu'elles ont bien compris que quelque chose dans le système vertical n'était plus possible, parce qu'il y a cette critique très forte de néocolonialisme, et l'État, la structure étatique, décide de répondre en considérant que finalement, effectivement, nous ne sommes plus dans une structure verticale, mais plutôt dans quelque chose qui se partage, dans une coexistence des langues, etc.
Mmh. Donc Kateb Yassine lui parlait de l'empire du français. On peut comprendre de plusieurs façons ce terme de « empire ».
Oui, on peut le comprendre de plusieurs façons. Je crois que dans le polygone étoilé, vers les dernières pages, il explique de manière très précise ce qu'a été la langue française pour lui. Ça a été un outil, ça a été un élément qui a participé à rompre sa relation charnelle, intime, sensuelle avec sa propre mère. Donc ça, c'est une image qui est évidemment très 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 diffusée dans ces espaces-là. Mais je crois qu'il y a cette question effectivement qui est très importante. C'est la question de la communication, pas seulement transmission de messages, mais la question véritablement de l'échange. En quelle langue est-ce que l'on s'exprime et quel est le public auquel on s'exprime? Et c'est pour ça que je rappelle toujours qu'au début des années 1970, Kateb Yassine opère ce qu'on appelle une conversion linguistique, c'est-à-dire qu'il décide que finalement quelque chose avec la langue française et quelque chose avec le genre romanesque s'achève. Que désormais c'est à autre chose qu'il doit se consacrer, le théâtre populaire, l'Algérie, les Algériens, les Algériennes, et bien évidemment la langue dialectale.
Il y a toujours, surtout dans une ville comme Paris, la tentation du cosmopolitisme, la tentation de vouloir acquérir des notions de culture qui en fait ne sont pas essentielles, qui sont des choses qu'on peut avoir connues, mais pour celui qui veut créer vraiment ou celui qui veut abattre, ça peut le gêner. Or, moi, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à abattre. Par exemple, la culture française aurait pu être un mortel danger pour moi si je m'y étais complu. Si je n'avais pas choisi, par exemple, au départ, si je n'avais pas choisi Rimbaud et si je ne m'en étais pas tenu là, si j'avais voulu assumer toute la culture française, si j'avais voulu une espèce de fringale de la culture, je serais devenu ce que je reproche d'être à beaucoup d'écrivains, c'est-à-dire une espèce de monstre qui a... une espèce de glouton qui a dévoré des tas de plats étrangers, qui ensuite en fait un, pour dire, voilà, je connais la cuisine universelle. Mais en fait, ce n'est pas ça un poète. C'est quand même très difficile. Parfois, il faut toute une vie, il faut aussi beaucoup de solitude. Et puis, il faut chercher ce que je n'ai pas encore trouvé. Moi, c'est la vie profonde du pays, en Algérie. Et en Algérie, les plus cultivés, c'est les analphabètes. Ceux qui m'en apprennent le plus, ceux avec lesquels j'ai du plaisir à être, c'est ceux-là. C'est des chômeurs, par exemple, des chômeurs parfaits, qui n'ont jamais été à l'école. C'est les plus riches. Dès qu'ils se mettent à parler, et là, c'est tout un travail, parce qu'il y a un côté presque policier dans le poète. Il faut les faire parler. Il faut trouver les moyens de les toucher dans leur fibre. Et alors là, on s'aperçoit qu'il y a toute une humanité extrêmement riche, une espèce de cour des miracles, si vous voulez, pour parler comme Victor Hugo, si vous voulez, une espèce d'immense richesse enterrée dans l'ignorance d'elle-même, mais aussi dans le fait que, en général, les écrivains et les hommes de culture ne voient jamais ça.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de l'écrivain Kateb Yassine. Avec vous, Kaoutar Archi, qu'est-ce que vous retenez de ces propos? Qu'est-ce qui se joue dans ce qui vient d'être dit par Kateb Yassine?
Il me semble que quelque chose qu'on peut immédiatement sentir, c'est ce qu'on appelle parfois la quête de liberté, la quête de libération, qui évidemment dans le cas algérien prend une ampleur toute particulière. On peut peut-être en des termes plus sociologiques parler de quête d'autonomie ou de quête d'autonomisation. C'est-à-dire comment réussir à créer dans une langue dominante sans que celle-ci ne vous domine. Et il y a là quelque chose qui a été extrêmement travaillé par de très nombreux auteurs et philosophes. Derrida, par exemple, s'est confronté à cette question de manière très forte.
Alors comment faire, justement ?
Comment faire? Il y a de multiples stratégies. Nous évoquions avant la question de la conversion linguistique, c'est-à-dire le retrait. Le fait de dire « je me retire d'un espace linguistique pour en développer un autre ». C'est quelque chose aussi d'ailleurs qui est actuellement assez fortement observable au Sénégal, par exemple. Il y a des auteurs, je pense que, notamment à Aboubacar Boris Diop, qui investit énormément la langue wolophone.
Donc c'est bien wolof. Ce qu'a fait Kateb Yassine. Ouais. Dans un premier temps, il écrit en français. On peut peut-être d'ailleurs expliquer pourquoi ce choix. Il y a un choix qui tient au réseau de diffusion, parce qu'ils sont déjà existants. Donc on sait que quand on écrit en français, on va pouvoir toucher un lectorat qui est plus important. Et puis il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être aussi des choses plus personnelles à Kateb Yassine dans ce choix.
Oui, quand on relit des passages du poète comme un boxeur où il revient beaucoup sur ces éléments-là, il donne des justifications qui sont très précises. Par exemple, il dit « Ma relation avec l'institution française, avec les écrivains françaises, était tellement tumultueuse que j'avais besoin de leur montrer qu'un Algérien était capable de produire une œuvre extraordinairement complexe à la manière d'un Rimbaud, à la manière d'un Baudelaire, etc. » Donc je crois qu'il y a ici un rapport de pouvoir qui est extrêmement difficile et que l'une des aspirations de Kateb Yacine a été de sortir du regard, de sortir du regard de la métropole, de sortir du regard français. Ce qui se confronte à quelque chose sur lequel Kateb Yacine n'a pas énormément prise, qui est la structuration du champ littéraire algérien. Mmh. L'absence d'un lectorat, l'absence d'institutions littéraires, l'absence d'un champ parfaitement autonome par rapport au pouvoir religieux, par rapport au pouvoir politique, le met dans une sorte de situation de tension. Où la seule manière de créer est de se déplacer continuellement, de se déplacer géographiquement, de venir à Paris, mais aussi de voyager dans le reste du monde pour créer des réseaux de solidarité et des réseaux relationnels qui peuvent l'aider, mais aussi des déplacements plus symboliques, le fait de quitter une langue pour une autre langue, le fait d'abandonner le genre romanesque dominant pour un genre théâtral populaire un peu plus mineur, un peu plus minoré. On voit donc là, de manière extrêmement forte, l'inégalité, la relation inégalitaire qui existe entre les écrivains dits de métropole, les écrivains français ou européens, et les écrivains qu'on qualifie parfois d'écrivains excentriques, pour reprendre l'expression de Pascal Casanova.
Alors justement, comment est-ce que ces écrivains de métropole, et puis ce milieu intellectuel de l'époque, des années 50 à Paris, comment est-ce qu'ils vont accueillir Kateb Yacine ?
Il revient sur cette question à de multiples reprises et il revient toujours à ce sujet avec des expressions très fortes. J'ai le souvenir, par exemple, de sa découverte de Saint-Germain. Et il explique très rapidement qu'il a décidé de ne plus aller à Saint-Germain, qu'il a décidé de ne plus fréquenter ce milieu-là. Et il emploie une expression très forte qui est l'expression d'aliénation. L'espace littéraire, le champ littéraire français, les éditeurs, les écrivains, les journalistes, comme des agents qui l'aliènent, qui participent à reproduire une situation coloniale extrêmement forte.
Et en même temps, c'est Aragon qui lui fait publier ses premiers poèmes. C'est dans la revue Esprit qu'il publie, c'est au Seuil qu'il publie.
Bien sûr, parce que le champ littéraire, et en particulier le champ éditorial de cette période-là, va extrêmement être marqué par la guerre d'Algérie et par le combat anticolonial. Donc il y a toute une reconfiguration de cet espace-là. Les éditions du Seuil, par exemple, sont très marquées par cette histoire et par ce conflit.
Donc il y a une partie de l'intelligentsia qui accueille Kateb Yacine. Est-ce que pour vous, il l'accueille d'abord sur un sujet, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, avant d'accueillir réellement un écrivain, un artiste ?
Je crois que dans ce type de situation, et c'est très très fortement généralisable à d'autres écrivains, il y a quelque chose de l'écrivain étranger. Et d'ailleurs, Bourdieu en parle très très précisément dans son article sur la circulation internationale des idées, où ce qui l'emporte généralement n'est pas tant ce que dit l'écrivain que ce que le champ dominant est capable de lui faire dire.
Mais ça, c'est un peu le cas pour tous les écrivains, c'est-à-dire que d'où qu'ils viennent, les écrivains sont souvent interrogés, notamment par la presse, sur le sujet de leur livre, et avec le prisme qui est évidemment le prisme des médias et des journalistes.
Mais quand il s'agit d'écrivains dits francophones, d'ailleurs on voit bien ici la distinction entre français et francophone, il me semble qu'il y a une surdétermination politique de la réception qui est beaucoup plus intense.
Et donc c'est ce qui s'est passé dans les années 50, au moment de la publication de Nejma, et en particulier au moment où Kateb Yassine est invité à la télévision. Et vous racontez très bien cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, Kateb Yassine va se retrouver dans une situation assez particulière, mais c'est quelque chose qui va se perpétuer même par la suite. C'est-à-dire que un ensemble d'agents importants du champ littéraire de l'époque vont tenter de s'approprier l'œuvre. Alors quand je dis s'approprier l'œuvre, c'est-à-dire tenter de faire en sorte de montrer que le courant littéraire qu'ils sont en train de défendre, le nouveau roman par exemple avec Rob Grillet, est déjà sensible dans l'œuvre de Kateb Yassine. Donc Kateb Yassine s'est retrouvé à une certaine période de sa vie considéré comme un néo-romancier, ce qui était aussi une manière, on pourrait dire, de dépolitiser la parole qui était la sienne et le travail et les idées qu'il défendait.
Alors il faudrait parler aussi de la reconnaissance posthume de Kateb Yassine. Une grosse partie du chapitre, du long chapitre que vous consacrez à Kateb Yassine, est précisément consacré à l'année 2003, année France-Algérie, et vous expliquez très bien comment cette année France-Algérie, elle a été ouverte, un peu symboliquement, c'était dès les premiers jours de janvier, par une représentation à la Comédie-Française, mais alors pas spécifiquement d'une pièce de Kateb Yassine, et c'est là tout l'objet du point que vous souhaitez développer.
Oui, mon travail a particulièrement porté effectivement sur la question de la consécration. Quand on est un auteur consacré, qu'est-ce que cela signifie ? Dans le cas de Kateb Yassine, c'est effectivement très intéressant, puisque à titre posthume en 2003, comme vous le disiez, dans le cadre de l'année de l'Algérie en France, il y a plus de 2000 événements culturels qui ont lieu, des concerts de rail,
des humoristes aussi. Alors Fellag avait été sollicité, mais je crois qu'il n'a pas souhaité participer.
Fellag a décidé de boycotter effectivement cet événement.
Pourquoi ?
Principalement parce qu'il considérait que c'était une manière de soutenir ou en tout cas de ne pas être complètement honnête, complètement critique vis-à-vis de la politique qui était à l'époque menée par Abdelaziz Bouteflika. Et puis bien sûr, il y a la question kabyle qui est centrale pour Fellag. D'autres,
parce que c'était co-organisé par la France et par l'Algérie.
C'était co-organisé, c'était effectivement co-organisé et ça c'est surtout... préparé, ça s'est décidé au niveau de l'État, c'est-à-dire que c'est un ensemble de rencontres entre Abdelaziz Bouteflika et Jacques Chirac suite à la demande de repentance de Bouteflika face à l'Assemblée nationale en l'an 2000, ce que Jacques Chirac refuse, tout en tendant une main qui est cette proposition culturelle qui est faite. Donc c'est très intéressant, ça montre effectivement qu'ici l'espace culturel est l'espace où on va tenter de développer des choses, là où diplomatiquement, là où politiquement, elles ne peuvent plus se réaliser. Et donc j'étais effectivement très très intriguée, très très intéressée par l'entrée de Kateb Yassine au répertoire de la Comédie-Française, qui est le temple sacré du théâtre classique. Et au fur et à mesure des recherches dans les archives, des échanges avec les différents participants à cette procédure, on se rend compte que Kateb Yassine en fait ne fait pas partie du répertoire de la Comédie-Française. Il y a été intégré à titre exceptionnel. Et il me semble ici que le mot exceptionnel, l'exceptionnalité, elle est assez fondamentale, puisque cela veut dire que Kateb Yassine ne rentre pas dans le cadre du régime commun littéraire. Il demeure exceptionnel, c'est-à-dire différent.
Alors, il faut expliquer un petit peu techniquement comment ça se passe. C'est-à-dire que pour rentrer dans le répertoire de la Comédie française, il faut avoir été joué sur la scène de Richelieu.
Tout à fait.
Ce qui est arrivé à Kateb Yassine, mais pas spécifiquement sur l'une de ses pièces. Ce sont des montages, des collages d'articles, d'interviews qu'il a donnés, qui ont été donnés sur la scène Richelieu et au Vieux Colombier, donc ça n'est pas une reconnaissance officielle, le Vieux Colombier, a été donné une adaptation de Nejma, donc l'un de ses romans, et non pas vraiment une pièce de théâtre. Faut-il y voir à mal tout de même ? Est-ce que il n'y a pas d'autres explications possibles, la volonté par exemple d'utiliser Nejma parce que c'est le texte le plus célèbre de Kateb Yassine, ce qui pour le public français est peut-être une manière plus simple d'entrer dans l'œuvre. Comment est-ce que vous analysez les choses?
Il me semble qu'il y a deux niveaux qu'on peut observer. Le premier niveau, c'est le niveau institutionnel. C'est-à-dire que la Comédie française, et on pourrait refaire son histoire en remontant jusqu'au début des années 1990, à un moment donné, s'interroge de manière assez précise, et je pourrais dire même de manière très très pertinente, il y a quelque chose, des questions qui sont posées qui sont vraiment très intéressantes, sur la question de la représentation de l'altérité. Voilà, que fait-on avec les écrivains étrangers, mais aussi quelle place donnons-nous à la Comédie française, aux acteurs noirs par exemple, mais aussi aux femmes, etc., etc. Donc, dans un premier temps, il y a cette longue histoire, il y a cette longue attention qui est portée par des acteurs très précis et qu'on connaît. Le travail de Marcel Bozonnet, par exemple. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très fondamental ici. À un niveau peut-être plus micro, il y a aussi la question de l'usage des œuvres. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on souhaite donner à voir? Quelle est la représentation? Quel est le type de représentation que l'on souhaite construire? Dans le cadre d'un entretien que j'ai pu réaliser avec la veuve de Kateb Yassine et son fils, d'ailleurs le fils de Kateb Yassine s'est aussi prononcé sur cette histoire-là qu'il a nommée comédie française, la veuve et son fils considèrent qu'il y a eu quelque chose d'une forme d'usage instrumental, c'est-à-dire on prend le nom sans affronter le potentiel fondamentalement critique de l'œuvre de Kateb Yassine.
Il y a aussi quelque chose de politique parce que c'est organisé dans le cadre de l'année France-Algérie. On va entendre tout à l'heure dans le cadre de la chronique traditionnelle un entretien entre Garance Mazelier et Mohamed Kassimi qui a été justement celui qui s'est occupé du texte qui a été représenté à la Comédie française. Je voudrais qu'on entende juste avant de se quitter, parce que c'est une archive qui est intéressante, ce que disait Kateb Yassine au sujet de Camus. On n'aura peut-être pas forcément le temps d'en parler beaucoup, mais au moins écoutez cette archive.
Dans L'étranger, le personnage algérien, le seul, je crois qu'il s'appelle Saïd, c'est à peine s'il existe. On le voit tout juste, je ne sais même pas s'il dit quelques mots, et hop, il meurt d'un coup de soleil. Plus de Saïd, plus d'Algérien, et tout le reste, c'est l'Algérie française, c'est pas l'Algérie. Par contre, dans Lumière d'août, Faulkner trace le portrait d'un nègre assassin qu'il charge avec haine, même en sang, qu'il se bat avec ce nègre dans son livre. Mais ce nègre-là domine le livre. Il est là, on sent vraiment un travail d'écrivain, un grand écrivain, parce qu'il savait de quoi il parlait. Et le grand malentendu, c'est ça, justement, ici en Algérie. Il était impossible, surtout aux écrivains, il y a peut-être eu des exceptions, mais dans l'ensemble, ça reposait avant tout sur une illusion, un malentendu, une situation fausse, puisque Camus vivait toujours parmi les Européens. Il n'avait aucune ouverture, et je dirais même, on pourrait l'accuser, mais il ne faut pas non plus tomber dans une autre position morale. En fait, il n'y avait pas la curiosité la plus élémentaire pour la vie de ce peuple, pour sa langue. C'était sa vision du peuple algérien était une vision très rudimentaire, très lointaine. Et par là même, ça a infirmé son œuvre. Et on l'a vu d'ailleurs très curieusement pendant la guerre d'Algérie. Alors pendant la guerre d'Algérie, il a eu une position morale assez courageuse, puisque les pieds noirs lui ont jeté des tomates, il voulait même le tuer. Bon, c'est vrai. Mais d'un autre côté, à un moment donné, lorsqu'il a eu le prix Nobel, il a eu une parole révélatrice. Et à un moment donné, juste après la remise du prix, il y a eu une conférence, il y avait des journalistes. On lui a posé la question, parce que sa mère était encore ici. Sa mère était encore en Algérie pendant la guerre. Et il en est arrivé à dire, moi, si je dois choisir entre l'Algérie et ma mère, je choisis ma mère. Et à ce moment-là, dans la salle, il y a justement un nommé Saïd, comme le personnage qu'il a tué dans son roman, c'est très curieux. C'est un travailleur algérien qui travaillait là-bas, en Suède, qui se trouvait dans le public, et qui lui a dit, moi je ferai pas la différence entre l'Algérie et ma mère. C'est-à-dire, quand on se sent algérien, on ne viendrait pas à l'idée, on ne pourrait pas venir à l'idée d'un Algérien de dissocier sa mère de l'Algérie. Voilà le drame, il est là. C'est pourquoi, bon, il faut quand même que les Français comprennent une fois pour toutes que la littérature algérienne, c'est pas Camus, et l'Algérie n'est pas française. Et par la littérature est un bon moyen de comprendre.
Beaucoup de choses à dire, Kaoutar Archi, sur cet archive qu'on vient d'entendre. Est-ce que Camus fait écran à l'émergence d'une littérature algérienne? Et en même temps, est-ce que Camus s'est jamais vraiment revendiqué comme étant porteur d'une littérature qui serait une littérature algérienne?
Je crois vraiment que la relation d'Albert Camus aux écrivains algériens est extrêmement complexe. On le voit d'ailleurs, sa valeur en avançant dans le temps est devenue une valeur quasi totémique. C'est-à-dire qu'en disant Camus, en vérité, on ne sait plus exactement ce qu'on dit, on ne sait plus exactement de quoi il est question. Mais en écoutant Kateb Yassine, j'étais très ému parce que c'est une belle archive. Mmh. Merci de la diffuser. Mais ça prouve aussi que les pays post-coloniaux peuvent être indépendants politiquement et demeurer dominés littérairement, c'est-à-dire dominés sur le plan des représentations culturelles. Ce qu'essaie de faire ici Kateb Yassine dans ce propos qu'il tient, c'est de replacer Camus de l'autre côté de la frontière pour que la frontière algérienne puisse enfin apparaître, pour mmh. qu'une sorte de clarté, pour qu'une sorte d'élément fondateur puisse enfin émerger. Et c'est absolument nécessaire, puisque c'est par la définition d'un territoire symbolique que l'autonomie peut advenir et que la production de représentations culturelles peut venir faire sens avec les formes de nationalisme qui sont extrêmement prégnantes aussi dans ces domaines-là.
Merci beaucoup, Kaoutar Archi. Je rappelle que vous êtes écrivaine et sociologue de la littérature, autrice de « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne, des écrivains à l'épreuve ». C'est chez Fayard dans la collection Pauvert. On va voir maintenant avec Vassine Laretch comment se déploie le mythe de Kateb Yassine, mais cette fois dans l'imaginaire arabophone, et puis la réception de son œuvre en Algérie. Ce sera juste après notre traditionnelle chronique du jeudi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Traditionnel et en même temps pas tant que cela, vous allez l'entendre, puisque cette chronique prend aujourd'hui la forme d'un entretien réalisé, je l'ai dit, par Garance Mazelier avec l'écrivain et dramaturge Mohamed Kassimi.
Bonjour Mohamed Kassimi, vous
Bonjour.
Êtes écrivain, dramaturge et metteur en scène, et en 2003 vous avez coordonné un ensemble d'hommages rendus à Kateb Yassine à la Comédie Française. Alors comment est venue l'idée de présenter Kateb Yassine dans ce répertoire de la Comédie Française ?
L'idée coïncidait avec la célébration d'année d'Algérie en France. Et puis le projet est venu également de Marcel Bozonnet, qui venait d'arriver comme administrateur de la Comédie Française, qui venait de faire un tour d'Algérie, une toute grande tournée avec un de ses spectacles. Et donc, il s'est dit, ça serait formidable que pour un peu marquer le coup et fêter mon arrivée à la tête de la Comédie Française, qu'on consacre deux grands spectacles, deux événements à la Comédie Française. L'adaptation de Nejma, qui a été reçue pour la première fois dans l'histoire de la Comédie Française, nous avons reçu une troupe étrangère, une troupe algérienne, qui a joué l'adaptation que j'avais faite de Nejma en arabe et en français. C'était une première. Et puis, à la salle Richelieu, j'ai fait un parcours biographique de Kateb qui raconte, en partant de tous ses entretiens, qui raconte à la fois son parcours, sa découverte de la littérature, le traumatisme de 1945 avec les massacres auxquels il a assisté enfant, et puis sa découverte de l'exil et enfin la découverte du théâtre. Donc la décision, elle était là, c'était de célébrer cet esprit sulfureux, séditieux, qui n'a jamais posé ses valises quelque part et qui continue aujourd'hui à nous parler en dépit du temps qui a passé depuis sa mort.
Vous avez choisi pour ce parcours biographique de prendre d'autres textes de Kateb Yassine qui n'étaient pas des pièces de théâtre.
Donc il y a eu deux choses. La première, qui était un travail très très compliqué, c'était l'adaptation de Nejma, qui est un roman casse-tête, qui est un roman très compliqué, qui est un roman faulknerien, surtout jouer la pièce dans la langue de Yassine, qui est une langue presque rimbaldienne, qui est aux antipodes du théâtre au début, et la faire jouer en français et en arabe par une troupe qui maîtrisait très très peu le français, ça nécessitait le travail d'une année à Alger. Le deuxième travail était un peu plus facile, dans la mesure où je me suis basé sur l'ensemble des entretiens donnés par Kateb le long de sa vie, où il raconte à la fois ses errances, à la fois sa découverte de théâtre, son amitié avec Serrault, sa rencontre avec Brecht, et toujours avec un humour extraordinaire. Kateb était quelqu'un qui est, ce qui est rare dans le domaine de la littérature, qui ne se prenait pas au sérieux comme écrivain. Il avait toujours une très très grande distance, quelque chose d'aristocratique en lui. Donc c'était aussi une célébration de la poésie de Kateb, également, qui a ponctué tout ce spectacle biographique que nous avons monté à la Comédie Française.
Donc choix symbolique de choisir Kateb Yassine à la Comédie Française et en même temps choix rempli aussi d'une volonté pour vous et pour ceux qui ont réalisé cet hommage de transmettre quelque chose au public et de transmettre quelque chose qui aujourd'hui est encore d'actualité.
Oui, oui, Kateb disait tout le temps « je suis quelqu'un qui est très connu et que personne ne lit ». Et Kateb, aujourd'hui, reste à découvrir. Il reste à lire aussi bien en France et surtout en Algérie, où il est très très peu connu, où il est très très peu... C'est un nom, mais ce n'est pas un écrivain. Kateb est connu comme... c'est le nom de Kateb qui est connu, mais son œuvre est complètement méconnue. Je pense que la révolution que traverse l'Algérie aujourd'hui sera l'occasion de la renaissance du théâtre et de la redécouverte de Kateb, parce que les pièces de Kateb ne sont pas des pièces faciles à monter, c'est des pièces qui dérangent, c'est des pièces très très sulfureuses, c'est des pièces subversives, et aucun pouvoir algérien depuis l'indépendance n'a réussi à s'accommoder de sa verve et de sa violence et de sa critique. Et j'espère que demain, cette barrière de la censure va tomber et que les jeunes Algériens vont enfin découvrir Kateb Yassine.
Et vous-même, avez-vous le projet de le remettre en scène un jour, que ce soit en France ou en Algérie ?
Moi, j'aimerais bien refaire un travail, mais un travail de reparcourir avec des jeunes comédiens, avec des jeunes auteurs, l'intégrale de Kateb à Alger ou à Oran. Ce serait un rêve.
Merci beaucoup, Mohamed Kassimi.
Une réaction peut-être, Kaoutar Archi, rapidement à ce qui vient d'être dit.
Oui, pour moi, le mystère demeure un peu malgré ses explications. Kateb Yassine est un dramaturge extrêmement prolifique, donc on peut imaginer que ce n'était pas les pièces de théâtre qui manquaient pour être jouées salle Richelieu.
Bon, en tout cas, merci de nouveau, et puis merci à Garance Masselier, qui s'entretenait donc avec Mohamed Kassimi, que nous remercions également. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous terminons notre série consacrée à l'écrivain algérien Kateb Yassine avec à présent le romancier et professeur de littérature à l'université Paris 3, Vassini Larrage. Son dernier roman, traduit de l'arabe par Marcel Bois, s'appelle La Maison Andalouse. Il a paru en 2017 dans la collection Simbad chez Actes Sud. Il est également l'auteur de l'essai intitulé Les tendances du roman de langue arabe en Algérie, paru il y a bien longtemps chez Enal. Et puis on peut signaler aussi sa participation au numéro de la revue Europe consacré à l'écrivain algérien qui date de 1998. On écoute de nouveau Kateb Yassine, cette fois dans une archive de 71.
Un problème qui semble inexistant, mais qui est énorme, c'est que j'écris en français, on me crée le plus souvent en français, mais mes auditeurs, mon public, ce sont des gens de langue française, ce qui fait à peu près, dans, disons, dans toute l'Afrique du Nord, au grand maximum 10 000 personnes. Bien, je veux sortir de ce cercle de lecteurs privilégiés, je veux sortir de ce cercle de 10 000 lecteurs, et je veux trouver mon public naturel. Le trouver, ça veut dire, bon, pouvoir s'exprimer librement, être édité, etc. Et voilà que la contradiction, loin de se résoudre, devient encore plus cuisante pour l'écrivain. Parce qu'il a un éditeur français, il a des lecteurs français, il a un gouvernement algérien, et il a un peuple algérien. Il faut naviguer entre ces quatre écueils. Bon, écueil, pas pour le peuple. Le peuple, lui, n'est pas un écueil. Mais enfin, il l'est dans la mesure où, pour le moment, il n'est pas inséré dans... C'est-à-dire, le peuple n'intervient pas encore dans le combat. Et il faut trouver, il faut ouvrir une voie pour s'en faire un allié, pour aller vers lui. Et il y a un obstacle, un double obstacle matériel, moral et politique. Alors c'est dans cette difficulté-là que se débat un écrivain algérien. Naturellement, il y a des choses, il y a de curieuses choses. Par exemple, le facteur aliénant au départ, c'est-à-dire écrire en français, devient maintenant une position de force. Parce que, m'appuyant sur mon éditeur français, je peux faire passer ici, dans la presse française, des choses que je ne pourrais pas faire passer ailleurs. Par conséquent, c'est d'ailleurs très, très intéressant, au fond, ce qui prouve qu'on ne peut pas aliéner un peuple par la culture. Une langue n'est pas aliénante, une culture ne peut pas être aliénante. Alors, malgré tous les efforts qu'on a faits pour nous franciser, en fait, la culture française nous ramène à nous-mêmes. Et de toute façon, quand on est à Paris et qu'on s'exprime dans la langue française, ça porte aussi sur le peuple qui nous a aliénés. Parce que ce peuple est aliéné lui-même. Ça nous ramène à la parole de Marx, un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Bon.
Bonjour Bassine Larrège.
Bonjour.
Avant de commencer à parler vraiment de la réception en Algérie, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur ce qui a été dit jusqu'à présent dans cette émission ?
J'ai très bien suivi le débat. Ça a été très très important, surtout le rapport avec la langue française qui n'est pas très très facile. Il y a un amour, mais pas un désamour, c'est-à-dire des questions que Katb Yassine et je pense que toute une génération s'était posée.
Et qui se posent encore, selon vous ?
Chez certains écrivains, oui, mais je crois que c'est surtout pour la première génération, c'est-à-dire la génération post-indépendance. Mais par la suite, je crois que le débat a totalement changé, c'est-à-dire aller vers une langue, c'est un choix qu'on fait. Et puis est-ce que cette langue, c'est une langue aliénante ? Ça aussi, c'est un vrai débat, mais je ne pense pas que les questions se posent de la même manière.
Elles se poseraient comment maintenant ?
Justement, la première génération, elle était quand même porteuse d'une histoire, c'est-à-dire celle de la colonisation. La nouvelle génération, justement, elle s'est un petit peu débarrassée de tout ça. Bon, elle a un rapport avec l'histoire qui n'est pas tellement conflictuel, mais c'est un rapport aussi avec l'histoire, c'est-à-dire c'est le background de chaque écrivain algérien, surtout les écrivains algériens, parce que la francophonie, c'est aussi le Maroc et la Tunisie, mais surtout les Algériens. Parce que pour les Algériens, la blessure a été vraiment profonde. Et c'est pour cela qu'elle existe toujours, mais ce n'est pas de la même manière. Là, je pense que, en prenant par exemple un Kamal Daoud ou un Selim Bachi, etc., ils n'ont pas le même regard par rapport à la langue. Mmh. Je n'ai jamais vu, par exemple, un Selim Bachi parlant du problème...
Oui, il écrit naturellement en français.
D'une manière très naturelle. C'est un choix qu'il a fait. C'est un parcours aussi, parce que des fois, je me posais la question, surtout à propos de Katb Yassine, si la langue était vraiment un choix. C'est-à-dire quand vous faites un parcours totalement francophone devant un espace linguistique arabophone totalement interdit, c'est tout à fait normal que le choix n'est pas fait. C'est-à-dire on subit, entre parenthèses, une langue et puis on devient par la suite responsable de cette langue. On va voir ce qu'on pourrait éventuellement faire de cette langue. Et je crois que cette génération de Katb Yassine, Mohammadi, Bassir Jebbar, etc. produit une littérature merveilleuse, formidable. Et tout en étant dans la langue française, mais en même temps, on est en des rapports très très forts avec la société algérienne qu'ils décrivent, etc.
Alors justement, Katb Yassine, comment est-il considéré aujourd'hui en Algérie, et peut-être en particulier dans l'université algérienne. Vous citez une citation du professeur Abdelmalek Mortad qui disait que les écrivains algériens de langue française ignoraient totalement l'histoire arabe et ne connaissaient rien à la civilisation arabo-islamique. Est-ce que utiliser le français quand on est un écrivain algérien, c'est une trahison par rapport à l'histoire de l'Algérie?
Oui, mais par rapport à ce bonhomme, c'est-à-dire à ce professeur, qui était d'ailleurs mon professeur à une certaine époque donnée. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire le problème aujourd'hui ne se pose pas de cette manière, il se pose peut-être autrement, c'est-à-dire dans le cadre d'un débat linguistique plus complexe, au lieu d'évacuer les gens sur un prisme plutôt idéologique, parce que ce qui a été fait par le professeur Mortad, c'était plutôt de l'idéologie et non pas autre chose. Quand vous parlez par exemple, qui ne connaissent pas l'histoire arabo-musulmane, etc. Prenons le cas, par exemple, de Nejma. Elle s'insère, justement, dans cette histoire algérienne, mais une histoire algérienne plus complexe. Il n'y a pas que l'islam. Il y a l'islam, il y a d'autres religions aussi qui ont coexisté en Algérie et qui font partie, justement, de ce texte. Donc, il a un regard plus complexe par rapport à ce qui a été dit.
On peut même dire que Nejma est écrit en français, mais que c'est pas parce que c'est écrit en français que c'est de la littérature française. Il y a une utilisation du français qui est peut-être particulière tout de même à Kateb Yassine.
Vous savez, Kateb Yassine disait cette phrase qui est devenue presque un proverbe. la langue française est un butin de guerre.
On en fait ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est un butin. Donc on a la possibilité de bien le manier,
de faire de
ce butin quelque chose de très positif au lieu d'avoir un regard totalement négatif, totalement évacuant, c'est-à-dire de ce qui était très très important dans cette culture française, etc. Et je pense que c'était ça le regard de Kateb Yassine, et c'est pour cela que ça n'a pas interdit ni à Kateb Yassine, ni d'ailleurs à Mohammadi, par exemple, vous savez, de travailler aussi dans la langue française elle-même. Moi, quand je vois par exemple la trilogie de Mohammadi, je découvre que à l'intérieur de la langue française, il y a des inserts de la langue arabe, c'est-à-dire qui se font par le biais de la traduction. Ça ne donne rien, des fois, en langue française, mais quand vous faites la traduction intégrale, justement, de ce qui a été dit, eh bien, vous aurez totalement le proverbe dit en langue arabe dialectale tlemcénien. Mais ça, c'est très difficile, justement, pour quelqu'un de non-tlemcénien. Moi, je suis de Tlemcen, c'est-à-dire de comprendre ces petits détails. Et c'est pour dire que la langue française, elle a été un peu travestie dans le sens positif, c'est-à-dire qu'elle n'est pas restée justement une langue coloniale, entre parenthèses ou entre guillemets, mais c'est une langue qui s'est ouverte aussi sur le dialectal, sur l'histoire, et avec Kateb Yassine, il y en a plein justement de ces exemples.
Donc c'est une vraie langue mondiale
oui.
qui est en train d'émerger peut-être.
Bah, vous savez, c'est comme toute la... si vous prenez la langue française, vous aurez des déviations de cette langue, c'est-à-dire le Canada, créole, etc. Et vous avez l'ossature de la langue française qui est là, qui existe, mais en même temps, vous avez des pénétrations qui viennent d'autres cultures, d'autres dialectales, etc. Et donc, ce n'est pas... À mon avis, pour Kateb Yassine, ça n'a pas été vraiment un problème. Son problème fondamental, et celui justement de toute une génération, c'est comment pouvoir trouver le moyen afin d'être en contact permanent avec le peuple. Mmh. Et ça a été très difficile. Vous savez, pour Rachid Boujedra, il a carrément changé de cap. C'est-à-dire qu'il a choisi la langue arabe au lieu de la langue française.
Alors justement, ça pose la question de la traduction des œuvres de Kateb Yassine écrites en français, en arabe, et puis aussi en tamazigue, donc la langue berbère.
Oui.
Ces traductions, elles ont été faites maintenant, mais elles ont été faites après la mort de Kateb Yassine.
Vous savez, pour les traductions... Alors, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Kateb Yassine avant sa mort, quand il était à Ténira, à Sidi Bel Abbès, lors de la préparation de ses pièces théâtrales. Alors, il avait un regard quand même, si vous voulez, double. C'est-à-dire, il avait un regard par rapport à la langue standard. Moi, j'aime pas le terme la langue arabe classique, parce que la langue arabe classique, elle a terminé d'exister avec les mu'allaqat, avec le Coran, avec tout ce qui était très ancien, la poésie anti-islamique, si vous voulez. Cet arabe classique, il n'existe plus. Il y a l'arabe standard, c'est-à-dire l'arabe de tous les jours, de la presse, etc. ce n'est pas du dialectal, mais quand même c'est très amélioré, qui obéit à une règle, etc. Alors, Kateb Yassine, il avait un regard justement un petit peu fermé. Pour lui, la langue arabe, c'est un petit peu la langue du Coran, etc. Or, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, il y a eu des débats vraiment très, très houleux avec Kateb Yassine à propos de ce regard. C'est-à-dire, d'une part, il est avec la culture, disons, culture autochtone, mais en même temps, Il y a plein de déviations par rapport à tout ça. Et par exemple, je vous donne un exemple. Il avait de l'amour pour l'imam Abdelkader. Il a même écrit un livre, La Grande Conférence, très connue, qu'il a donné ici en France, etc. Mais en même temps, je lui disais, alors, l'imam Abdelkader écrivait dans quelle langue, monsieur Kateb Yassine? Il n'écrivait pas dans le dialectal. Il écrivait dans une langue arabe très travaillée.
Mais du coup, quel regard portait-il sur l'idée qu'on traduise ces textes? Et alors, il aurait pu d'ailleurs le faire lui-même.
Alors, pour lui, non, justement, il ne pouvait pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là aussi, c'est un petit peu un raccourci. Parce que si vous voulez traduire un livre d'une langue vers une autre langue, il faut que cette langue soit écrite. Or, le dialectal algérien n'est pas écrit. Ce n'est que les dernières années où on a commencé à écrire le
Donc, il n'y avait pas les outils à l'époque.
C'est-à-dire, même aujourd'hui, vous avez la langue arabe, vous avez deux langues arabes, vous avez la langue arabe, disons, classique, etc., dont le professeur Mortad que vous avez cité tout à l'heure est très attaché, et puis vous avez la langue arabe standard. Oui. Et Kateb Yassine était avec la traduction, mais dans un dialectal. Or, ça, c'était quasiment impossible.
Tant de fois que le soleil décline et nous oblige à faire feu, à s'être levé des dilemmes, le secret de notre influence jamais ne s'est perdu.
Revenons au professeur Mortad. Est-ce que vous pensez qu'il est dominant aujourd'hui sur sa vision très idéologique de Kateb Yassine? Finalement, est-ce que Kateb Yassine est incompris en Algérie?
Enfin, disons un petit peu, mais si vous me permettez, je parle un petit peu de traduction. Oui, parce que pour Kateb Yassine, la grande absence, il a été traduit d'abord en Syrie, les années 60, par une dame formidable de culture française. Il a été traduit aussi en Tunisie. Bonne traduction, la première elle est intégrale, la deuxième elle est bonne, la troisième qui voulait récupérer le côté poétique de la traduction absente dans les deux livres, malheureusement il n'a pas été très réussi. Et je pense que Kateb Yassine n'était pas très très content de cette traduction. C'est pas parce qu'il ne voulait pas que ça soit traduit, mais c'est parce que la traduction était insuffisante par rapport au texte qui était vraiment lourd et formidable.
D'accord, et donc sur...
Oui, je pense que cette vision maintenant, disons, a presque disparu. Vous savez, c'est une nouvelle génération qui s'installe.
Maintenant, il est mieux compris. Et il est compris pour lui-même, pour ses textes.
Vous savez, ça dépend des professeurs. Par exemple, au niveau de l'université, si on prend ce cadre, au niveau de l'université, vous avez de bons professeurs. D'abord, la littérature francophone, donc il n'y a pas de souci pour Kateb Yassine, il est très, très dominant. Et dans la littérature arabe, vous avez une matière qui s'appelle la littérature francophone. Et on enseigne la littérature francophone, on enseigne Kateb Yassine justement dans ce cadre.
Parce que ce qu'on lui reprochait, alors vous nous dites que c'est moins le cas ou que c'est plus le cas et on s'en réjouit, ce qu'on lui reprochait c'était finalement, en étant un écrivain francophone, d'être sous l'influence de l'étranger, sous l'influence de la France. Et puis on lui reprochait aussi d'être un ennemi de la religion musulmane. Il y avait quand même aussi beaucoup ça. Ça aussi s'est dépassé maintenant.
Vous savez, cette catégorie existe toujours. Tant que ce regard a toujours existé avec les formes islamisantes, etc., sur le plan politique, sur le champ politique algérien. Mais sur le plan littéraire, sur le plan universitaire, etc., je ne pense pas que ça a de l'influence, que Kateb Yassine est enseigné par des professeurs vraiment qui ont lu Kateb Yassine. Et généralement, les regards posés sur Kateb Yassine ne sont pas des regards littéraires, c'est plutôt des regards idéologiques et politiques. Oui. C'est ce qui veut dire que les gens qui ont des prises de position par rapport à Kateb Yassine n'ont pas lu Kadhi Yassine. Et tout à l'heure,
du coup, c'est un petit peu la même histoire que nous racontait Kaoutar Rachid dans la réception française qui était idéologique. Exactement. Et puis là, en Algérie, la réception, elle était aussi idéologique. Donc personne n'a lu, ou très peu de gens ont vraiment lu.
Mais le problème ne se pose pas seulement à Kadhi Yassine, il se pose aussi aux écrivains arabophones qui ont un autre regard, justement, très moderne, très ouvert sur l'universel, etc. Donc Kadhi Yassine, oui, c'est un cas à part, mais aussi la littérature arabe qui est écrite dans un autre moule, si vous voulez, très ouvert, etc. Elle n'était pas aussi acceptée.
En peu de mots, c'est un écrivain qui dépasse les frontières de l'Algérie vers le monde arabe. Est-ce qu'il est lu, je ne sais pas, oui, en Égypte, en Tunisie, au Maroc?
Il est lu, il est très reconnu, et même Nejma, il y a une représentation théâtrale de Nejma en Égypte, au Caire, il y a quelques années. Et donc, non, il est vu d'une manière très, très positive parce qu'il a été traduit. Vous savez, la traduction joue un rôle. Et la traduction de la dame, moi j'ai pas le nom en tête maintenant, c'était la première traductrice, c'était en 1966 qui a traduit Nejma. C'est une traduction, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment très intégrale, mais en même temps qui donne, qui représente un petit peu la force de ce texte. Malheureusement, à mon avis, que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs moi j'ai un rêve personnel de le traduire. Je me suis dit il y a quelques années, mais Kadhi Yassine n'est pas quelqu'un de très facile, c'est-à-dire où vous dépassez les trois traductions qui ont été faites, ou ce n'est pas la peine.
Merci beaucoup, Vassini Laredj. Je rappelle que vous êtes donc romancier, critique littéraire, universitaire, professeur à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous avez publié de nombreux ouvrages chez Actes Sud, comme par exemple La Maison Andalouse en 2010, réédité en 2017. C'était La Compagnie des Auteurs, une émission de Didier Pinoine, Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Audrey Guélil. Demain, c'est La Compagnie des Poètes de Manu Farine que vous retrouverez à 15h. Mais de la poésie, en voici dès maintenant, et c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu, nous sommes tombé bien haut cette semaine aux Pays-Bas, où la langue des poètes néerlandais pense et peint, bargouine et calcule pile et pèse ses paroles d'or et ses fabriques diamantaires, d'Anvers d'où vient Benno Barnard, dont nous écoutons Bob Dylan, « All the flowers of indulgence and the weeds of yesteryear ». Ne prions pas le credo d'aujourd'hui comme si, à l'époque préhistorique, l'oreille d'auditeurs méfiants avait appris à distinguer sons familiers et sons inconnus susceptibles d'augurer un danger. Rien contre la poésie exubérante qui met en lumière déchirement et euphorie, mais de là à faire briller sans gêne la langue. Ainsi parlent les universitaires honorés d'être admis à résoudre les cryptogrammes d'Orphée. Éternel nigo, les poètes font chorus et trahissent la réalité. Je pense qu'il parle, Benno Barnard, des compliments qui ont été adressés par les Nobel à Bob Dylan. « Oh, donnez-nous un poème, vraie demeure bourgeoise !» Oui, bon, c'est vrai, je suis caqué mauvais bec. Ce que je voulais dire, tu sais pas chanter, Zimmerman, mais quand tu t'y risques, tu mens. Bien sûr que je te méprise. T'es un produit des années 60, ces pleurnicheuses, une icône du narcissisme et de la foi en une paix qui rate à tout coup. Mais en vérité, je t'admire. Tu te fous de toute poétique. T'es tellement de voix. Une foule nasale à toi tout seul, foule de notre pensée, protestation, désir, naissance à tous, et au-delà de ta nasalité retentissent les voix muettes de tes ancêtres, dans une région frontalière damnée et marécageuse du tsar, mort aux plaintes lancinantes qui maudissent la mort. Comme il est impulsif ce Benno Barnard, physique, et on continue avec « Caressons-nous les uns les autres ». C'est un poème de Marieke Rierneveldt. Approchez-vous de l'ordinateur, approchez-vous du poste. On commence tout bonnement par s'approcher, refouler peu à peu l'air entre nos corps comme des bocaux de légumes d'été qui s'aspirent de vide. Une plus longue durée de conservation commence toujours par l'application d'une étiquette. Maintenant, à genoux, fiche ma main dans tes cheveux, frotte dans un sens, dans l'autre. Une manière inversée de saluer jusqu'à ce que tes mèches soient grasses. On connaît des gens qui, même pour se saluer, se tiennent trop loin, pour lesquels se dire au revoir en agitant la main est devenu une forme de respiration. Il faut toujours déclarer que l'air doit être pur avant qu'il puisse continuer. Cela ne doit pas nous arriver. Et rappelons-le, les poètes des Pays-Bas sont les invités d'honneur du 37e marché de la poésie qui commence ces jours-ci.
Jack Bonafé avec ce dernier épisode donc d'une semaine, vous le disiez à l'instant, qui accompagne l'ouverture du marché de la poésie à Paris dans l'invité d'honneur et les Pays-Bas.